penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à toutes et à tous, les empreintes musicales, l'émission, c'est parti. À ce micro, je suis Franck Amouroux et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode de la biographie audio de notre invité de ce mois, Émilien Robic, musicien et fondateur du groupe Fleuve. Cette émission a été enregistrée il y a quelques jours au domicile du clarinettiste. Cette ancienne ferme est située dans cette charmante campagne du Sein. Moment précieux en cette période presque estivale de cette fin de confinement 2020. À l'abri des regards et attablé sur la terrasse extérieure de cette belle longère en pierre, les poules de la maison se promènent sur le terrain et nous accompagnent pour cette interview. Un réel et délicieux moment de déconfinement dans la nature préservée. Ensemble, nous parlons musique et parcours personnel avec Émilien Robic. Un instant hors du temps, loin du stress urbain, pour cette nouvelle émission qui commence.
Les empreintes musicales.
Troisième épisode de la découverte du parcours du musicien clarinettiste Émilien Robic, un peu chanteur, enfin pas chanteur parce qu'il n'y a pas de chanteur, mais un peu leader du groupe Fleuve.
Oui, si on veut, ouais, c'est un peu le rôle du clarinettiste, ouais. C'est un peu chanteur du groupe Fleuve, quoi. C'est un peu ça.
Donc voilà, alors Émilien, on a découvert dans les deux épisodes précédents votre parcours. On voit que votre vie s'entremêle entre une appétence, un goût prononcé pour les choses de la nature. Vous avez même orienté votre scolarité vers là, jusqu'au BTS, hein, résumé pépiniériste, où vous avez travaillé pendant 4 ans, donc bon, sous forme d'apprentissage tout d'abord, puis après deux années en CDD sur la région de Brest, chez un pépiniériste un peu industriel, maraîcher un peu industriel. Puis après, donc de 2006 à 2007, à Maël-Carré, sur la commune, en tant qu'ouvrier paysagiste.
Voilà, et aux espaces verts de la commune, pour une découverte du métier plus jardinage, du coup. Là.
Jardinage, agrément un peu de l'œil, agrément de la commune, quoi, un peu essayer de rendre ça agréable. Quoi.
Ouais, voilà, puis avec le petit rôle social de ce métier-là, qui était en plus très sympa. D'aller un peu à la rencontre des gens et des fois de rendre service. Et puis, il y avait un petit côté vraiment très intéressant aussi dans ce métier-là. Ouais.
Et après cette expérience-là, donc voilà, on va dire à la culture de tomates sur la région de Brest, l'ouvrier paysagiste, enfin l'espace vert à la commune de Maël-Carré. En 2008, vous rentrez donc dans la fonction publique, là plutôt hospitalière, quoi.
Ouais, voilà, c'est la fonction publique hospitalière, même si du coup on a un métier à part, technique, qui est jardinier pour ma part, mais on fait partie intégrante de la fonction publique hospitalière, ouais.
Au sein donc de l'établissement, enfin de l'hôpital Charcot, plutôt spécialisé en psychiatrie, hein, sur la région d'Orient.
Voilà, un hôpital psychiatrique avec un grand parc de 40 hectares. Et voilà, donc pas mal de travail et un parc assez intéressant.
Alors 40 hectares, donc c'est votre quotidien aussi. Hein, c'est pour ça que c'est un peu difficile de suivre, mais vous avez un quotidien mixte, un double quotidien professionnel. Et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure en préparant cette émission, c'est que vous avez la semaine le travail à Charcot, donc en tant qu'ouvrier jardinier et jardinier, voilà, sur le parc de 40 hectares, et puis donc la semaine, le week-end. Vous consacrez donc la pratique de cet instrument de façon professionnelle, hein, parce que avec le groupe Fleuve maintenant, depuis 2012-2013, voilà, c'est quand même, ce n'est plus de l'amateur quand même, c'est plus un travail d'amateur là.
Non, effectivement, ouais, bah, ça a toujours été deux passions qui se sont chevauchées tout le temps et effectivement la frontière est toujours très très particulière quoi. Quand je suis au boulot, il m'arrive de faire de la musique parce qu'on me le demande au boulot d'aller animer des choses avec des patients, voilà. Donc quand je suis
jardinier clarinettiste alors.
Ben oui, bah c'est souvent ce que je dis quoi. Effectivement, quand je suis au boulot avec le jardin, on me demande de faire de la clarinette et le week-end quand je dois aller faire de la clarinette, j'ai envie de faire du jardin. Enfin, ça se mélange tout le temps quoi.
Fleuve Tour. We'll be right back.
va passer du coq à l'âne.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Donc ces deux parcours là qui s'entrecroisent, qui se chevauchent, qui se doublent, qui se jouent en parallèle dans votre vie là depuis quelques années. Je voudrais qu'on revienne voilà sur l'aspect sur votre région hein, et le cercle esthétique du Croisty qui a été donc un peu, il semblerait quand même un cercle d'amis aussi, un cercle d'apprentissage pour vous en tant que musicien, c'est un peu de là que tout est parti. En 2002, vous le rappeliez, vous gagnez donc ce concours aux clarinettes, au Festival des clarinettes populaires. Ça se passait à Glomel, donc tout près d'ici, hein, du Sein, et en Côte d'Armor, en sud du Côte d'Armor. Et cette date-là, donc en duo avec Yann Le Boulanger, c'est ça, hein, de Poulaouen, de mémoire, vous permet de commencer à intégrer et d'envisager un début de rémunération pour ce travail de musicien, enfin, ou pas enfin ?
Si, ouais, c'est ça. En fait, à partir de là, des gens me contactent pour jouer dans un groupe qui s'appelle Kentan. Voilà, donc c'était assez marrant parce que donc il m'avait contacté via un sonneur de clarinette du Centre Bretagne, Olivier Envoie, qui était bien connu, enfin, qui est bien connu, et qui voilà, il me propose de venir faire un casting en gros quoi. Donc j'y suis allé on a bien rigolé, on sait plus, et puis je suis arrivé à la bourre, je me rappelle, complet, comme d'hab. Et puis voilà, mais ils m'ont gardé. Hein. Et puis c'est devenu des potes. On a fait plus de 10 ans de scène ensemble, en tout genre, sur des remorques de tracteurs, et puis aussi dans des très beaux lieux.
On va découvrir tout ça. Kentan, je vais le prononcer à la française, est ton nom bretonnant d'origine. Est-ce qu'on peut... Donc le groupe existait avant votre arrivée, il recherchait vraiment... un musicien additionnel en fait, ou c'était ou alors vous avez remplacé quelqu'un, quelles étaient un peu les, on va dire, la direction artistique de ce groupe là qu'est-ce qu'ils défendaient?
En fait, c'est deux copains, Jérôme Guillaume et Jean-Marie Laurent, qui à l'époque en 98 ont monté ce groupe là avec d'autres personnes qui ont, en fait, il y a eu pas mal de gens à passer dans ce groupe là avant qu'ils trouvent une formule, avant que le groupe trouve une formule qu'il a voulu garder ensuite quoi. Donc moi, je l'ai intégré en 2002, me semble-t-il, et puis, par là. Et puis voilà, il y a des musiciens qui sont partis après, d'autres qui sont arrivés. Mais la formule de Kentan, je sais pas, elle a été stable au bout de 3-4 ans que j'y étais, moi. Donc j'ai aussi vu d'autres musiciens passer par ce groupe.
Et c'était quoi alors la finalité ? Quels étaient, y avait du chant, c'était, qu'est-ce qui différenciait Kentan de d'autres groupes de musique ?
Eh ben, pas grand-chose, justement, à cette époque-là, tous les groupes se ressemblaient un peu, quoi. C'était des groupes de 5-6 musiciens, souvent guitare, accordéon, bini-bourbarde, voilà. Donc, Kentan remplissait toutes les cases, là aussi, quoi. Il y avait accordéon, guitare, bini-bourbarde, et clarinette, et violon, voilà, pour l'époque.
Et donc, ça, c'était un groupe de quel coin ?
La région de Cléguérec, ouais. Et voilà, mais c'est un groupe qui, c'était les années Skeduze, tous ces groupes-là de musique bretonne. Donc effectivement, tout le monde avait un peu un casting qui se ressemblait. Et puis ça jouait beaucoup d'air traditionnel, pas beaucoup de compositions à l'époque. C'était quand même les années, fin des années 90, début des années 2000, où beaucoup de groupes se ressemblaient, mais c'était la grosse période d'activité du Fest-Noz, la pleine vie du Fest-Noz, avec des salles... le moindre Fest-Noz, il y avait 1000 personnes partout, quoi. C'était quand même des très bonnes années. Voilà, et puis en fait...
Alors là, voilà, c'est quoi, plusieurs... Une décennie, alors, à jouer avec eux, à effectivement jouer dans plusieurs endroits, avoir, voilà, mais toujours avec, du coup, beaucoup de public. Vous avez vraiment senti que le public s'est filé un peu au fur et à mesure des années ?
Ouais, tout le monde a constaté ça, effectivement. Maintenant, les Fest-Noz sont... Enfin, le nombre de personnes à aller à un Fest-Noz maintenant est beaucoup, beaucoup moindre qu'avant. Les organisateurs qui, avant, pour quasiment n'importe quel plateau faisait du bénéfice. Et puis c'était plus valable même de faire ça que des lotos, par exemple. Donc c'était bien pour la vie culturelle. Alors que maintenant, on sent bien que...
Et pour les musiciens aussi.
Ouais, bien sûr, pour tout un territoire, pour toute une vie. Mais maintenant, on sent bien que c'est effectivement plus difficile. Les organisateurs sont regardants au centime près. Il faut une tête d'affiche pour le Fest-Noz. Il faut un groupe vraiment pas cher à côté. Parce que si on prend vraiment une tête d'affiche pour essayer de remplir, on atteint déjà largement le budget qu'on s'est fixé. Enfin, on sent bien qu'il y a une difficulté quand même dans le monde culturel pour que ce soit vraiment viable pour tout le monde, quoi.
Pour le monde du Fest-Noz en tous les cas. Et ouais, est-ce qu'on peut rappeler alors cette décennie-là, des moments un peu extraordinaires, des dates qui auront compté plus que d'autres, peut-être aussi cette période où vous dites au bout de 3-4 ans, après votre arrivée dans le groupe, le groupe se stabilise sur une esthétique alors musicale ?
On est vraiment dans la musique traditionnelle de ces années-là, quoi. Il y a pas. Ouais, c'est un groupe qui ressemblait un peu aux sonorités que de Skedus, de Karma, de tous ces groupes de cette époque-là, quoi. Parce que c'est aussi ce que nous on écoutait à ce moment-là, quoi. On était dans la veine de la musique du moment, et puis on faisait un peu tous pareil. On se démarquait pas complètement, non, c'est sûr.
Et alors, ouais, des dates ou des circonstances ou un peu de souvenirs qui auront marqué toutes ces soirées-là, les week-ends. Donc, en parallèle, vous étiez au tout début, en tout cas, travaillé sur le relais Kéru, hein, en sous-traitant à Saveol.
J'ai pas de date en particulier. Il y en a vraiment des très très bons moments tout le temps, quoi. C'est vraiment une équipe de copains. C'est un peu comme avec le Croisti, quoi. On était content de faire de la musique, mais après tout, on était surtout content d'être ensemble, quoi. Donc chaque Fest-Noz était l'occasion de rigolade et de faire la riboule, et puis humainement, c'est il y a un des membres du groupe qui est devenu mon beau-frère, enfin qui s'est marié avec ma frangine, du coup Samson Dayou, mon cousin, est arrivé dans le groupe un peu plus tard. Voilà, donc Kenton, c'était un peu c'est un peu la famille aussi, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et puis.
C'est dans ces années-là, on était sur quel territoire vous pouviez jouer les samedis soirs et les week-ends alors ?
Bon, on était sur les 5 départements bretons, quoi. On allait très peu ailleurs. À Paris, on a dû aller une fois ou deux, mais c'était vraiment anecdotique. C'était juste pour la rigolade. Mais non, c'était vraiment... Il y avait des Fest-Noz partout, tous les week-ends. Donc on ne manquait pas de date, même si c'était pas notre métier, mais ça faisait un petit plus pour la vie, quoi, pour les week-ends.
Fleuve, ronde Saint-Vincent. fin de Kentan, c'est avec quelques temps après l'arrivée de votre cousin, effectivement, dans le groupe. Vous vous décidez à répéter ensemble sur un répertoire que vous créez vous-même. Comment ça se passe un peu cette transition, juste avant l'envie de créer Fleuve, d'imaginer Fleuve, le début de Fleuve?
Bah en fait, on a quand même beaucoup joué avec Kentan. Et puis Sanson, je ne sais pas, il a peut-être fait... Il a fait beaucoup de temps dans Kentan aussi, finalement. Moi, j'y ai joué 15 ans, peut-être, mais Sanson, il en a peut-être fait 10 aussi, quoi. La sensation d'avoir fait un peu le tour aussi, musicalement, dans Kentan. On ne compose pas beaucoup, on joue des airs traditionnels, donc ce n'est pas toujours facile. Et puis chacun est dans son travail, pas d'intermittent dans Kentan, donc du coup, tout le monde travaille à côté, difficile de se retrouver pour la répé, et puis bon. Voilà, peut-être
une ferveur un peu baissante aussi pour la population du Fesnoz, quoi, pour les danseurs du Fesnoz.
Ouais, il y a aussi ça, ouais, moins de dates sympathiques, plus de difficultés à jouer finalement, et puis bon, peut-être cette sensation un peu de pas se renouveler, de tourner en rond un peu, et bon, sentir que si on veut faire de la musique, si on veut faire autre chose, il faut trouver une idée, il faut faire quelque chose, quoi. Et puis
comment vient cette idée? D'où vient-elle? Qui se la pose? Et comment ça se passe au tout départ? C'est noir sur blanc?
En fait, c'est avec Kentan, on a via Sanson. En fait, quand on a enregistré l'album de Kentan, on a invité Romain Dubois à venir faire un peu de Fender Rhodes, le clavier, son clavier sur lequel il joue actuellement là. Et en fait, voilà, donc moi je le rencontre à ce moment-là. Sanson le connaît du fait d'avoir été étudiant à Rennes avec Romain Dubois à la fac, tous les deux. Donc ils ont fait de la musique, du jazz-rock de leur côté à Rennes, mais moi je ne connais pas Romain Dubois du tout. Donc voilà, donc Sanson me le présente et puis on décide d'aller de l'inviter sur un morceau, donc une danse trad, ficelle, à jouer du Rhodes pour l'enregistrement, quoi. Et puis, donc moi, je découvre le bonhomme, je découvre l'instrument. Et effectivement, je me dis que waouh, ça ouvre là des sacrées portes, quoi, si on décide de faire quelque chose. Et voilà, donc je cogite un peu. Et puis, voilà, l'envie me prend, effectivement, de passer la clarinette à la vitesse supérieure, on va dire. Et puis, de l'imaginer un peu leader dans un groupe et non plus... Discorneur à répondre soit au biniou, bombarde, soit à l'accordéon. Mais voilà, changer un peu le rôle de la clarinette dans la musique et puis mon rôle aussi. Et puis, donc voilà, l'idée me vient de proposer à Romain et à Sanson de créer quelque chose à trois sur une formule là aussi qui cassait un peu les codes habituels des groupes à 5-6 personnes qui coûtaient cher du coup et puis qui étaient toujours un peu. Guitare, accordéon, enfin...
Un peu identique, quoi, sur la formule.
Voilà, il fallait essayer de trouver aussi quelque chose qui sonne différemment, quoi. Et aussi qui a un aspect visuel différent et une façon d'aborder la musique qui soit, elle aussi, différente, quoi.
On va aborder ça dans la dernière partie, donc la création de ce groupe Fleuve, mais on voit voilà, que c'est un peu le parcours, les différentes étapes de votre vie, en tout cas de musicien et de clarinettiste, qui a permis, voilà, par l'intermédiaire de rencontres et de pratiques de différents instruments, et l'envie de créer quelque chose un peu de différent, d'avoir son propre répertoire, d'imaginer en fait, d'assouvir un peu sans doute une force en vous qui était créatrice pour imaginer voilà, un projet artistique de A à Z en fait, en résumé.
Ouais, c'était un peu l'envie de créer son propre bébé quoi et puis de laisser un peu une trace, un truc nouveau dans le son du Fesnoz à ce moment-là quoi.
Jacques Pellen, bobine. Emilien Robic, notre invité du jour, clarinettiste au sein du trio de musique bretonne Fleuve. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous. Ciao, kenavo, à bientôt.